Le duché de Normandie a été forgé par la guerre. Ou peut-être devrait-on dire plus précisément qu'il est né d'un effort pour éviter la guerre. En 911, Charles Simple accorda certains districts bordant la côte et la cité de Rouen à une bande de pillards vikings. Cet accord est connu normalement sous le nom de traité de Saint-Clair sous Epte. L'emploi du mot traité par des historiens souligne la notion qu'il est destiné à mettre fin à une situation de conflit entre le roi français et les envahisseurs. Les termes d'un diplôme de Charles, 7 ans plus tard, indiquent bien son objectif. Je cite, « La portion que nous avons accordée à Rollo et ses compagnons pour la sécurité de notre royaume. » De longue date, les Vikings avaient eu tendance à s'emparer des territoires. Mais, pour utiliser une expression de David Bates, je cite, « De telles tendances devenaient en toute autre affaire lorsqu'elles étaient dirigées contre des régions où il existait déjà une certaine mesure d'organisation politique. C'était bien entendu le cas du nord de la France. » La région avait déjà fait l'expérience d'une création antérieure dans un contexte militaire. La marche de Neustria, s'étendant de Calais aux confins de la Bretagne. En 862, elle fut accordée par Charles Chauve à Robert le Fort dans l'intention de freiner les incursions bretonnes. Les origines de la Normandie sont bien ancrées dans cette Neustrie carolingienne. Rollo et son fils Guillaume Longue-Épée pour étendre le territoire, surtout par des moyens militaires, chaque phase culminant, après coup, en une concession accordée par le requérant roi Bercien. En 924, ce fut la Normandie centrale, depuis Bayeux en direction de Maine, je cite « Pacto Pacis eis Concessae ». En 933, les territoires accordés préalablement aux Bretons dont le Cotentin et l'Avranchin. Avec le temps et après 60 années de pouvoir passé entre Carolingiens et Robertiens, la fin ultime de la monarchie carolingienne vint en 987 et ceci marqua l'accession des Robertiens à une nouvelle dynastie permanente, les Capétiens. Nous voyons donc un second point fondamental, la création du duché de Normandie est lié inextricablement à la formation de la France. La création du duché, quand Hugues accéda au trône, les territoires des rois de France étaient limités géographiquement en raison d'aliénations formelles, telles que celles de Normandie, et limités dans l'ensemble par un haut degré de free-for-all dans le nord de la France. Même les Vikings en Normandie, qui se firent appeler ducs à partir de 963, trouvèrent leur expansion vers le sud et vers l'ouest limitée par d'autres, si bien que les frontières de leur duché furent établies grâce à la guerre. La duché de Normandie alors fut donc créée et définie par la guerre. Pour Yucapé et ses successeurs, essentiellement des rois parisiennes, la frontière avec la Normandie revêtait une grande importance, justifiée, elle aussi, par les contraintes de guerre. Elle devint la plus importante de toutes les frontières, suite à la consolidation de l'autorité des ducs de Normandie. Et encore davantage quand le duc de Normandie conquit le royaume d'Angleterre en 1066, créant un voisin royal puissant aux confins de la France royale. S'il existe un thème bien évident à travers l'ensemble de la période couverte par ce colloque, c'est la contestation entre la monarchie française et le duché de Normandie, tenu par le roi d'Anglais. Ces communications se concentrent sous deux périodes clés, de 1066 à 1204-1205, période durant laquelle Philippe Auguste envahit le duché par la force militaire, ce qui lui permit de le réintégrer dans son royaume de France. Et deuxièmement, de 1415 à 1450, une période qui débuta avec le plan forgé par Henri V pour conquérir le duché. Henri ne parvint à prendre qu'une seule ville, Harfleur. En 1415, il coupa corps à sa campagne de conquête en essayant de quitter la France. Il fut intercepté à Azincourt. En aparté, c'est bien cette campagne qui a inspiré l'idée d'un colloque. Mais bien sûr, Azincourt ne se trouve pas en Normandie. Bien que les recherches donnent des précisions sur le nombre des Normands qui tombèrent ou finirent prisonniers dans cette bataille, combattue pour le roi de France. Henri V revint en Normandie en 1417, s'autorisant cette fois-ci le titre de duc de Normandie et combinant la conquête militaire avec la manipulation politique pour s'efforcer de recréer le vieux duché lié au royaume d'Angleterre. En 1449 et 50, Charles VII, tout comme l'avaient fait ses prédécesseurs royaux français en 1204, entre en Normandie par la force, bouta les Anglais hors du duché et réintégra celui-ci dans son propre royaume de France. Cependant, en théorie, la Normandie n'avait jamais quitté le royaume de France, que ce soit dans la première ou la deuxième période. Alors que la plupart des communications se trouvent au cœur des deux périodes identifiées, il y a aussi quelques contributions sur la période entre 1204 et 1415. Les Anglais abandonnèrent de façon formelle leurs prétentions sur le duché en 1259, le traité de Paris entre Saint-Louis et Henri III. Mais 80 ans plus tard, Édouard III, en tant que prétendant au titre de roi de France, envahit la Normandie en 1346. Pour cette période et au-delà, François Neveu nous a fourni une excellente vue d'ensemble dans son livre de 2008, « La Normandie pendant la guerre de Cent Ans », avec le splendide catalogue produit par l'exposition sur la Normandie dans la guerre de Cent Ans, 1346 à 1450, tenue à Caen et à Rouen en 1999. Le préface de ce dernier résume nettement la question de la position de la Normandie. Je cite, « Dans cette tragédie dont elle est un des enjeux, la Normandie va être un acteur majeur. » L'avantage du duché de Normandie comme point d'accès à la France royale fut une inspiration clé. Nous rappelons avec quelle efficacité Philippe Auguste et ses successeurs avaient maintenu leur domination militaire et politique en Normandie après 1204. Nous pouvons également observer l'éternel fondement géographique pour la guerre en Normandie, quelle que soit la période. La Normandie possède un littoral particulièrement long, ce qui rendait sa défense difficile et ce qui facilita l'invasion anglaise. Ce n'est pas une coïncidence si, en 1412, les Anglais, sous le commandement de Thomas, duc de Clarence, débarquèrent dans le Cotentin, à Barfleur en effet, au même emplacement que Édouard III en 1346. Cet endroit étant éloigné des lieux principaux de contrôle royal, le fait d'y débarquer donnait un avantage immédiat, moins de résistance et plus d'occasion de raid avant le moindre risque d'interception. Édouard III put marcher sans entrave à travers toute la basse Normandie. Daniel Power m'a dit hier que, en 1233, Henri III a une idée de négocier avec les Français pour que les Anglais puissent avoir la possession du Cotentin, comme un type de compromise après la chute de Normandie en 1204. Le Cotentin, à mon avis, est très important dans la guerre à chaque tour. Il n'est pas non plus surprenant que les Anglais avaient eu envie de capturer ou de tenir des têtes de pont. Cherbourg était entre les mains des Anglais grâce à un marché conclu avec les seigneurs navarrais entre 1378 et 1393. L'étude de Madeleine Masson d'Autum reste le meilleur compte-rendu de l'importance militaire de Cherbourg à cette époque-là. D'autres endroits du Cotentin étaient tenus par les Anglais au XIVe siècle, et plus particulièrement Saint-Sauveur, le vicomte. Saint-Sauveur était entre les mains de Godfrey de Harcourt en 1340, et grâce à son transfert d'allégeance vers Édouard III, Saint-Sauveur passa sous le contrôle des Anglais. Ceci aida Édouard III à sécuriser le Cotentin et à protéger ainsi son débarquement et sa campagne initiale. À sa mort, Godfrey de Harcourt légua son château au roi d'Anglais, roi anglais. Dans les années 1350, Saint-Sauveur servit de base importante pour le harcèlement de la région, particulièrement dans les mains de Jean Chandos et pour l'alliance anglo-navarraise. Ceci nous rappelle que les installations militaires de petite taille pouvaient causer des disruptions, elles aussi. Il est également remarquable que Saint-Sauveur soit demeuré sous contrôle anglais même après le traité de Bretigny, et que Charles V était contraint de l'assiéger en 1375, une relativement rare occasion d'action militaire en Normandie durant la seconde phase de la guerre de Cent Ans. Mes propres études montrent bien que Henri V avait l'intention de faire d'Harfleur un second Calais. En réponse aux menaces anglaises du XIVe siècle, la ville de Rouen fut transformée en une base militaire royale majeure grâce à l'établissement du Clos des Galets. Le trafic maritime basé en Normandie était un élément clé de défense et d'attaque. Après tout, les actions et les plaintes des marins normands avaient justifié la confiscation par Philippe le Bel du duché d'Aquitaine à Édouard Ier à la fin du XIIIe siècle. Et c'est l'île de Mont-Saint-Michel avec sa baie de marais qui était parvenue à maintenir son indépendance face à la domination anglaise. Même en étant encerclée par les Anglais au XVe siècle, par un cercle de bastides construites spécialement à l'est et au sud. La Normandie avait aussi de longues frontières terrestres et un grand nombre de voisins et d'ennemis potentiels. La frontière nord-ouest, en direction de Paris, au sein du territoire vexin, où Philippe Auguste conduisait son invasion initiale infructueuse en 1198, fut particulièrement fragile au cours de plus d'une période. La frontière sud, en direction de Maine et de la Bretagne, était également une scène de conflit. C'est dans cette dernière que Guillaume le Conquérant trouva la mort à la guerre, tout comme Thomas, duc de Clarence, frère d'Henri V, à la bataille de Baugé en 1421. Ces frontières rendirent les constructions de fortifications fréquentes et distinctives. Les châteaux construits par les rois ducs anglais pour la défense de leur duché à la fin du XIIe siècle, selon Bernard Bacharach, indique bien qu'il poursuivait les enseignements de Vergès sous la guerre défensive, allèrent de pair avec le cercle de forteresses construites par Philippe Auguste, à la fois pour menacer le duché et pour pouvoir l'amener de façon sûre sur son éventuelle domination. Ce sujet a été élucidé très récemment par Marie-Pierre Baudry dans sa contribution à au livre Plantagenet et Capétien, Confrontation et héritage, avec pour conclusion que, je cite, les formes nouvelles des châteaux révèlent bien les combats et imitations auxquels se livrent les Plantagenets et la Capétien dans les années 1200. Les constructions traduisent des conceptions différentes et l'on peut opposer le rationalisme du plan philippien à la diversité architecturale plantagenée. Résultat, la Normandie avait un nombre particulièrement élevé de châteaux royaux et de villes bien fortifiées, difficiles à capturer, mais qui, une fois sécurisées, offraient un système formidable de défense. Le fait qu'ils aient été utilisés et remis à neuf continuellement au cours du XIVe et XVe siècle met en valeur quelques points clés. Le premier, c'est que la guerre de Cent Ans obligea le maintien d'une position défensive forte en Normandie, comme nous le constatons dans la seconde phase après 1369, à une époque où la couronne française craignait l'invasion des Anglais, même si celle-ci ne se matérialisa pas à l'échelle où l'entendait. Ceci incita à garder des fortifications dans les mains royales, comme ce fut le cas à Saint-Sauveur, même quand la seigneurie fut accordée à d'autres. Le second point clé, c'est que la guerre en Normandie était dominée par des sièges. Ici, les parallèles entre 1417 à 19 et 1449 à 50 sont frappantes. La conquête est faite d'une séquence de sièges, quelquefois simultanés, comme le siège final de Rouen par Philippe Auguste, alors qu'au même moment que ses commandants prenaient d'autres endroits en Normandie. Et aussi, comme les plans d'Henri V, de 1418 à 19, qui, après avoir sécurisé un corridor de Caen à Alençon, envoya, c'est en effet pour couper la Normandie en deux, envoya ses frères simultanément vers l'est et vers l'ouest pour prendre les territoires en les assiégeant. En réalité, et nous trouvons ceci dans toutes les trois périodes, les sièges n'étaient pas nécessaires partout. Une fois que les villes clés et les châteaux tombent, les autres capitulaient sans qu'on ait besoin d'intervenir. Un effet domino est une description tout à fait justifiable. L'autre problème était la difficulté, quelle que soit la période, de trouver les moyens d'assurer la relève d'une place assiégée. Il y eut des sièges remarquables, celui de Château-Gaillard en 1204. Un travail de Dominique Pitt a réaffirmé la nature exceptionnelle de ce château, dans lequel les Anglais avaient investi de grandes ressources qui retardèrent l'invasion française. Et il démontre bien dans quelle mesure les références des chroniques peuvent être authentifiées par une étude du site lui-même. Le siège de Rouen, en 1418-19, est significatif parce que c'était la plus grande des villes assiégées avec succès durant toute la guerre de Cent Ans, même s'il fallut 6 mois pour y parvenir. Et, tout comme Château-Gaillard, la population civile souffrait énormément quand les assiégeants refusèrent de la laisser passer à travers le Lune. Ces incidents nous rappellent que la guerre de siège en Normandie n'était pas simplement une tâche réservée aux armées professionnelles. En fait, La population ne fut immunisée à aucun moment puisque les incursions militaires étaient généralement accompagnées d'une recherche de victoires à la campagne et de dégâts matériels, afin de bien souligner le niveau de menace de l'envahisseur. Mais nous pouvons voir aussi comment les conquérants essayèrent de se concilier les populations autochtones, particulièrement les citadins, tenant compte du pouvoir financier et politique de ces dernières. Par exemple, Philippe Auguste confirma les établissements de Rouen après avoir pris la ville, bien qu'au début Henri V se soit comporté durement contre les Rouennais. Les droits de la ville furent restaurés et sa rançon collective fut réduite. Ailleurs, nous voyons Henri gagner les villes au moyen des concessions, une stratégie qui poursuivit Charles VII à la veille de sa reconquête. Généralement, cependant, l'intensité des fortifications en Normandie servit de protection contre les attaques et les bouleversements et contribua à un strict maintien de l'ordre de la part de l'autorité centrale. On a fait remarquer récemment que Richard Cœur de Lion avait laissé à son frère Jean un ensemble de défenses de frontières très solides. Seules les campagnes de conquête systématiques et sous grande échelle étaient à même à supprimer cette protection. Toutefois, les circonstances changèrent à la fin de notre période, quand la progression et l'usage plus extensif de l'artillerie de poudre à canon apporta une différence réelle à l'équilibre entre une guerre défensive et une guerre offensive. Sous l'ensemble de notre période, il y a très peu de batailles sur une grande échelle dans le duché. En 1173, à Verneuil, prochaine année à Rouen et plus tard à Fréteval, les Français refusèrent de s'engager, témoignage de leur perception de la force militaire anglo-normande. Le 20 août 1119, les armées du roi duc Henri Ier battirent l'armée de Louis VII à Brémule, dans le Vexin. Un bon exemple de bataille des frontières, puisque, comme le fit remarquer Matthew Strickland, je cite, « les confrontations directes entre souverains avaient généralement lieu en marche, sous les frontières du duché, et ou aux confins des territoires du roi-duc, même si ceux-ci étaient des terrains de domination disputés par les Français. » Comme le montre Strickland, il s'agissait d'un engagement parmi d'autres, durant la période anglo-normande, où les troupes à pied étaient cruciales, même si elles étaient soutenues par la cavalerie. Tinchebray, 1106, en est un exemple encore plus célèbre. En fait, des études de ces batailles et des tactiques anglo-normandes mettent généralement fin aux notions plus anciennes, selon lesquelles la cavalerie était dominante dans la conception normande de la guerre. La bataille de Tinchebray était un autre exemple de conflit de frontières, aux confins du comté de Mortaigne, une région tenue par un partisan clé de Robert Curtis. Tinchebray fut, bien entendu, le sujet d'une excellente collection d'essais éditée par mon co-organisateur Véronique, stimulée par le centenaire anniversaire de la bataille en 2006. Sans les anniversaires, que ferions-nous pour donner forme à l'étude historique? À une plus petite échelle, la victoire anglaise à la bataille de Bretau en 1379, peut être attribué à l'avantage offert par Cherbourg à celui qui en disposait. Stéphane Lenné a identifié, ce qui est fort utile, l'emplacement de la bataille et pour cela il s'est servi de l'étude de la toponymie. La bataille de Verneuil en août 1424 fut le résultat d'une journée liée au siège d'un château Ivry. Cela fait aussi occurrir Azincourt en temps de triomphe des archers en masse sur la cavalerie et sur des soldats de pied solidement armés. Celle de Fomigny, en 1450, fut le dernier soubresaut des Anglais, à la suite d'une campagne de conquête relativement facile pour Charles VII. Une indication supplémentaire que les armes utilisant le poudre à canon avaient fait pencher la balance du côté de l'agresseur. Mais la Normandie est une région vaste, extrêmement régionalisée, avec certains endroits difficiles à contrôler en vertu de leur terrain et leur environnement. Il en découle que nous y trouvons des conflits informels à petite échelle, base de routiers et de brigands, plus particulièrement dans la phase XVe siècle. Et pourtant, le duché ne semble pas être sujet à des guerres privées autant que d'autres parties de la France, sauf durant les périodes où la possession du duché était disputée, comme au début du XIIe siècle, par exemple. Cette absence générale de combat fut le résultat d'un haut niveau de contrôle central, à la fois durant la période ducale et la période royale. Après 1204, la loyauté normande à la couronne était d'un niveau élevé en général. Louis IX préserva les obligations des détenteurs de fiefs normands, mais on peut quand même noter un glissement graduel vers un paiement financier plutôt qu'un véritable service militaire, comme l'indique Philippe Contamine. Je cite, « Très tôt, le roi de France put apparemment se fier à une partie de la classe militaire normande. » Toutefois, les principes du service féodal normand seront apparents au XVe siècle et prêts à être exploités par Henri V, bien que tout lien direct entre les quotas qu'il mit en place et ceux des normands soit difficile à définir. Le niveau élevé de l'autorité royale aida Henri V dans sa conquête, à une époque où la loyauté pouvait tout simplement être transférée à un nouveau roi, une fois que celui-ci avait démontré l'effectivité de son pouvoir militaire et politique. Dans ce contexte, Godfrey de Harcourt, qui encourageait et aidait l'invasion Édouard III, apparaît comme une exception. Son changement d'allégeance est complexe, comme l'a fait remarquer François Neveu, mais il résulte aussi de la force musclée utilisée par Philippe VI pour maintenir l'ordre en Normandie. Dans les décennies qui suivent, la possession des domaines par le parti navarrais créa une nouvelle menace, d'autant plus que cela venait de s'ajouter aux ambitions anglaises. Nous pouvons voir son importance anticipée en 1356 quand Édouard III décida d'adopter le titre de duc de Normandie. Au bout de compte, toutefois, la menace finit par ne pas être aussi significative que l'on aurait pu craindre. Le traité de Bretigny imposa aux Anglais de se retirer de leur petite conquête en Basse-Normandie, ce qui aboutit rapidement à la défaite de Navarre par les Français et ce qui marque la fin de tout véritable défi contre une autorité royale unique. La Normandie n'était pas un territoire de nobles tout-puissants, mais un territoire de pouvoir royal, ce qui fut vital dans les défis des années 1460. Au cours de l'invasion anglaise, précédemment dans le siècle, certains nobles préfèrent l'exil à la soumission. Pourtant, Henri V put quand même faire appel au soutien militaire des autres, de même que créer sa propre nouvelle noblesse. La société normande fut militarisée à travers son nombre relativement important de nobles et de ceux qui vivaient noblement et qui suivent les guerres. La réponse à la sémence des nobles en 1415 et donc le nombre de morts et de blessés provenant de Haute-Normandie à la bataille d'Azincourt était élevé. Sous la domination anglaise, la sémence des nobles fut publiée au moins à 50 occasions. La responsabilité locale pour la défense était également bien établie et soutenue par le système d'impôt des quatrièmes et exploitée habilement par Henri V et ses successeurs. Oui, il est certain que les forces militaires et défensives de la Normandie et son haut niveau de contrôle royal central s'offrirent à Henri pour son bénéfice. Il est vrai que presque tout l'intérêt des historiens anglais pour la guerre en Normandie s'est concentré sur des périodes où l'activité anglaise était à son maximum et, d'autre part, nous devons l'admettre, sous des périodes où les Anglais étaient les plus couronnés de succès. Les Anglais ont adopté les ducs de Mont comme leurs propres ducs. Dans un travail récent, Siobhan Brown démontre l'admiration continuelle au Royaume-Uni pour les conquérants normands de l'Angleterre et la croyance selon laquelle ils auraient apporté une contribution fondamentale au développement de la grandeur nationale. Au cours de la commémoration de notre anniversaire en 2015, celui de Magna Carta, nous avons tourné la perte de la Normandie en 1204 à notre avantage national. Si Jean n'avait pas perdu la Normandie, il ne serait pas conduit aussi outrageusement qu'il le fit, et ses barons ne seraient pas rebellés contre lui. Nous devons donc remercier la perte de la Normandie, puisqu'elle nous a permis d'établir nos libertés. Le duché nous a donc donné une solide monarchie, de même que notre démocratie. Le duché joue sans doute également un rôle clé dans l'identité et la fierté nationale française, grâce aux deux conquêtes de 1204 et 1450, toutes deux points culminants de l'histoire nationale. L'histoire écrite des Normands fut autogénérée. Le duc Richard commanda Dudo de Saint-Quentin pour tout dire un homme venant de l'extérieur du duché, pour écrire le De moribus et actis primorum Normanniae ducum. La prouesse militaire des Normands y est soulignée. Le travail de Dudo servit de base à ceux qui continuèrent l'histoire normande pendant et après sa conquête par l'Angleterre. Les récits historiques distinctifs se concentrant sur la guerre normande dans les chroniques de Guillaume de Jumièges, Robert de Tourigny, Vas, Ordulic Vitalis, conservent leur importance pour les historiens d'aujourd'hui. On s'est beaucoup servi des sources de ces riches chroniques pour reconstruire les événements militaires et aussi pour identifier la place que tient la guerre dans la psyché contemporaine. La conquête de la Normandie par Philippe Auguste fut aussi le sujet de récits historiques concentrés et intentionnels, en particulier la Philippide de Guillaume le Breton, concentrée sur la réussite des rois en tant que personnes individuelles, tout comme le travail de Dudo avait élevé le rôle des ducs en tant que personnes individuelles. Ceci souligne bien l'importance des ducs-rois normands en tant qu'ennemis qui faisaient bloc à l'expansion de du royaume de France. On a versé plus d'encre sur les guerres de la fin du XIIe siècle et début XIIIe siècle que sous toute autre période. L'anniversaire du triomphe de Philippe Auguste a occasionné autre conférence organisée par les trois, maintenant l'un, Université Normand, en 2004, bien que Daniel Parr y ait fait valoir le point de vue selon lequel, je cite, « les historiens ont analysé en profondeur l'effondrement du pouvoir ducal en Normandie en 1204. Par contraste, on a négligé la Normandie capétienne. » La raison pourrait en être attribuée à ce qui, troublé de temps en temps, sa passivité reste frappante. Pour pas, la noblesse conserva suffisamment de son pouvoir dans les affaires locales pour créer un état de compromis, même lorsqu'elle fut confrontée à une autorité royale croissante. La guerre de Normandie au XVe siècle en générait un grand nombre d'études historiques. Cette conférence ne ferait pas exception puisque, oui, des communications seront présentées sur cette période. Je suis anglaise et je dois donc me demander si moi-même et les autres historiens de langue anglaise avaient été séduits par l'efficacité de la machine militaire anglaise et particulièrement par ce modèle de loi médiévale courant né de succès que fut Henri V. Denis Anger spécula que les Anglais se sont montrés beaucoup trop bureaucratiques dans leur administration de la France à cette période et que cela contribuait à leur chute. Mais peut-être devions-nous écarter son point de vue comme celui d'une Canadienne. Il est bien vrai qu'il existe une vaste documentation sur l'organisation militaire durant la période du gouvernement anglais au XVe siècle. Il existe une raison double pour cela. Tout d'abord, la conquête anglaise est documentée dans les archives anglaises et surtout les rôles normands, enrôlement recommencé par Henri V. À fur et à mesure que la conquête d'Henri progressait, les Anglais adoptèrent de plus en plus les styles français du gouvernement. Leur chambre de camp établie à Caen, puis fut transférée à Paris, mais après la perte de la capitale Paris en 1436, elle fut déplacée à Rouen. Cette archive fut réunie à Paris avec celle de la couronne française au XVIe siècle. Ajoutant à cela d'importants calendaires et éditions de documents nationaux et locaux par Pierre Le Cachot, Michel Nautier et d'autres personnes en Normandie même. Cette tradition d'édition érudite française avec des commentaires approfondis a largement contribué à l'étude des guerres en Normandie durant la première moitié du XVe siècle. Ce sont bien les auteurs français qui ont été les premiers à utiliser ces documents. Plus particulièrement Charles de Robillard de Beaurepaire à partir du milieu du XIXe siècle et au-delà. Son étude de l'administration de la Normandie sous la domination anglaise se basait sur trois livres de comptes suivants du receveur général de Normandie, source qui apporte une image complète de l'établissement militaire et des actions militaires à ces dates. Toutefois, c'est une historienne américaine, Richard Newhall, qui produisait la première étude approfondie, The English Conquest of Normandy, 1416 to 1424, A Study in 15th Century Warfare, c'est publié en 1924, dérivé de sa thèse de doctorat à Harvard 10 ans plus tard, et se basait sur une recherche documentaire approfondie en Angleterre et en France pendant les premières années de la Première Guerre mondiale. C'est étonnant ça. Par la suite, comme le note sa préface, je cite, « L'auteur fut trop distrait par d'autres circonstances pour prêter attention aux guerres du XVe siècle. » Newhall dédia son livre à une amie avec qui il a fait campagne à la frontière de la Normandie et en Picardie durant le printemps de 1918. Le but de Newhall étant de, je cite, « donner une impression vivide et raisonnablement correcte des problèmes militaires auxquels les chefs français et anglais se trouvaient confrontés et des moyens qu'ils employèrent pour les résoudre. » Il fait remarquer un contraste important avec la guerre d'Édouard III en Normandie le siècle précédent. Selon Newhall, Édouard III avait été bafoué dans ses efforts pour gagner des territoires en France par le fait que le pays de Normandie était, je cite, « tellement doté de châteaux, forteresses et cités fortifiées que le processus de conquête ne pouvait être que long et que les efforts pour tenir les provinces conquises coûteuse en homme. » Et malgré la prise de Caen en 1346, il ne fit aucun effort pour s'y accrocher. La conquête systématique de Henri V était donc une nouvelle stratégie et cela incita Newhall à montrer comment cela avait été entrepris et maintenu. Dans les années 1920, le travail méticuleux de Newhall, basé sur la source exceptionnelle décrite précédemment, stimula une attention accrue à l'égard de la présence militaire anglaise en Normandie. Les recherches de Benedict Rowe à Oxford soulignent quelle haute importance les Anglais accordaient au maintien de la discipline militaire, spécialement dans les moments de crise potentielle qui suivent la mort d'Henri V. L'attention accordée à la relation avec la population locale révèle comment les Anglais se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'occuper le duché avec leurs propres soldats. Ils devaient générer un investissement et une participation locale de manière à minimiser l'aliénation et résistance. Et donc, tout en continuant à faire appel à l'obligation défensive des Normands pour effectuer guet et garde, les Anglais avaient l'intention d'opérer dans des paramètres définis. Le soutien des États de Normandie jouait également un rôle clé, et les Anglais y firent appel fréquemment. Puisque des impôts étaient nécessaires pour payer les garnisons, les Anglais durent prendre en considération l'opinion locale et éviter les disputes entre soldats et civils. Newhall lui-même produisait un deuxième livre en 1940 qui considérait la façon dont les Anglais essayaient de contrôler leurs troupes. Ces études, de même que le travail considérable de Christopher Almond sur la Normandie anglaise plus généralement, ont stimulé mon propre intérêt pour l'organisation militaire de la période. Les considérables archives nominales m'ont également permis de regarder plus près le personnel, capitaine et bailli, et la nationalité des troupes. Me permettait aussi de créer une base de données sur les soldats. À partir du XIXe siècle et au-delà, les écrits historiques français sur la guerre dans la Normandie au XVe siècle se concentrent de manière significative sur la question de la résistance. Comme le fit remarquer Roger Jouet dans son étude magistrale de 1969, la résistance à l'occupation anglaise en basse Normandie, je cite, il a noté que les travaux consacrés à la résistance se multiplièrent pendant la période 1871 et 1914. Et il est indéniable que la perte de l'Alsace-Lorraine ait été pour quelque chose dans cette recrudescence. Cette recherche de patriotes qui combattirent contre les Anglais comporte non seulement des études sur les défenseurs de Mont-Saint-Michel, mais aussi sur ce que les occupants anglais classaient comme brigands, mais que les historiens français des périodes ultérieures, particulièrement Lefebvre Pontalis et Puiseux, considèrent comme patriotes tombés pour la France. On insistait sur le fait que l'occupation anglaise détestée n'avait pas duré longtemps, le glas de sa mort ayant été sonné par les actions de Jeanne d'Arc et par son meurtre final, ce qui fait le jeu de Charles VII et de ses réformes militaires, qui, à mon avis, paraissaient devoir une dette substantielle à l'organisation anglaise en Normandie. La résistance interne à la domination anglaise demeure un élément important, en soulignant qu'il s'agissait davantage de guérilla plutôt que de l'image traditionnelle d'une guerre entre des armées professionnelles. Henri V et ses successeurs cherchaient à baisser les actes de résistance en les traitant comme des actes criminels, évitant ainsi toute suggestion selon laquelle ceux qui se battaient pour la France pouvaient prétendre être des guerriers légitimes ou représenter une véritable cause politique. Ainsi, les Anglais espéraient dissuader la population de s'impliquer dans la résistance. La guerre, en tant qu'expression d'identité nationale, est ainsi problématisée. La place de la population pendant l'occupation anglaise de la Normandie continue de retenir l'attention historique. Quel rôle les habitants jouaient-ils dans leur propre destinée militaire? Mon propre travail, que j'ai publié sur les villes de Normandie, est situé en partie dans ce domaine de discussion. Plus récemment, Rémy Ambul a examiné en détail la capitulation de Rouen, sur laquelle nous en entendrons davantage plus tard dans la journée. Son travail révèle la complexité et la sophistication de peacemaking, large catégorie dans laquelle sont comprises les capitulations. La guerre n'est pas simplement une question de combat. La résistance interne doit être examinée en tandem avec les activations militaires externes des Français. La guerre éclair de 1440 à 50 permit de reconquérir en Normandie plus vite que Henri V n'avait accompli sa conquête. En conclusion, l'étude de la guerre en Normandie révèle combien l'étude de l'histoire elle-même a changé au cours des deux derniers siècles, depuis l'époque où les historiens ont commencé à s'intéresser au sujet. À l'époque postmoderniste, nous sommes plus conscients des nuances de formulation dans les textes que nous étudions et du besoin de sonder les mentalités autant que les événements. Ceci est plus apparent qu'ailleurs dans l'étude de la violence. La guerre est une manifestation où les différences nationales et culturelles sont apparentes dans les périodes elles-mêmes. La manière dont on écrit sur la guerre procure une aperçu significatif sur la manière dont celle-ci était considérée. Que ce soit à travers les lentilles de Froissart ou autres traités narratifs et politiques. Ces ouvrages avaient également un message sur la guerre qui est aussi puissant que les commentaires d'aujourd'hui. Merci. Excusez-moi, vous avez...